بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le samedi, le 28 du mois Rajab de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 17 janvier 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre étude de ce livre très bénéfique et très profitable dans le domaine de l'unicité d'Allah, le livre de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, décédé en l'an 1206 de l'Hégire, qui est intitulé Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Donc, on s'est rendu au 50e chapitre de ce livre, que l'auteur, rahimahullah, a intitulé « Babu qawlillahi ta'ala, falamma atahuma saliha, ja'ala lahu shuraka'a fima atahuma ». Donc, il a intitulé ce chapitre par un verset, car le chapitre tourne autour de ce verset. Et d'ailleurs, il a cité dans ce chapitre ce verset de Surat al-A'raf, dans le sens, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, puis lorsqu'il leur donna un enfant sain, ils lui donnèrent des associés dans ce qu'il leur avait donné. فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا أَتَاهُمَا. Donc j'ai dit, l'auteur rahimahullah, dans ce chapitre, il a cité ce verset et quatre paroles de salaf dans l'explication de ce verset. Car ce verset, au sujet de ce verset, certains récits ont été rapportés qui ne sont pas authentiques dans l'explication de ce verset. Et que le jugement qui est donné ici, comme quoi il concerne notre père et notre mère, Adam et Hawa, alayhim as-salam. Donc il y a des récits qui ont été rapportés, des paroles de salaf, comme quoi ce verset concerne Adam et Hawa. Et nous allons voir que la vie juste, c'est pas celui-là. En plus, nous allons voir plusieurs points qui ne peuvent pas nous permettre de penser et de croire que ceux qui sont concernés directement par ce verset, c'est Adam et Hawa. Donc, pourquoi l'auteur, rahimallah, a fait ce chapitre? Tout d'abord pour nous rappeler que l'octroyance d'une descendance est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, est une grande faveur quand Allah t'accorde des enfants, garçons et filles. Donc ça, c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala complète pour toi ce bienfait en leur accordant une bonne santé, ça c'est un autre bienfait. Et le summum des bienfaits au sujet de ce point, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala les réforme dans leur religion et leur permet d'être sur la droiture. Donc ça, c'est le comble par rapport à ce bienfait. Donc, le devoir des parents, quand Allah leur accorde des enfants, c'est d'être reconnaissant. Et parmi la reconnaissance, c'est d'attribuer les bienfaits d'Allah à Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas leur donner des noms ou des appellations dans lesquelles il y a une servitude à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui ne se montre pas reconnaissant, au contraire, il se montre ingrat par rapport à ce bienfait, ou qui leur donne des appellations dans lesquelles il y a une servitude à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une forme d'ingratitude. Donc si l'appellation qui comporte cet interdit, son sens n'est pas visé, mais il a donné ce prénom comme n'importe quel autre prénom. Ça, ça comporte une forme d'associationnisme mineur qui diminue le degré obligatoire de tawhid. Par contre, si le sens est voulu et la personne, elle vise que cet enfant voue des adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, il l'appelle Abd al-Nabi. Ce prénom, malheureusement, qui est répandu au Maroc, Abd al-Nabi, surtout dans les villages. Donc, si c'est un simple prénom, il lui donne ce prénom par amour au prophète alayhi salam et par respect au prophète alayhi salam, ça c'est de l'associationnisme mineur, car le sens n'est pas voulu. Par contre, si le sens est voulu, il veut vraiment que ce soit un serviteur, un esclave du prophète alayhi salam qui lui voue des adorations, qu'il invoque et qu'il implore et qu'il lui demande le secours après sa mort, et ainsi de suite, ça c'est quelque chose qui fait sortir de l'islam. Et dans ce chapitre, nous allons voir clairement l'interdiction de tous les prénoms et de toutes les appellations qui comportent cet interdit, yani cette servitude à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas autorisé d'appeler quelqu'un Abd al-Nabi, il n'est pas autorisé de l'appeler Abd al-Ka'ba, il n'est pas autorisé de l'appeler Abd al-Husayn, comme c'est connu chez Rafida, ou Abd Ali. Tous ces prénoms sont interdits. Et le jugement, c'est comme ce qui a été cité précédemment, selon la catégorie. Est-ce que le sens n'est pas voulu, ou le sens est voulu? Il veut vraiment ce que ça indique comme sens. Parce que le sens que ça indique, c'est une servitude à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça rentre dans... L'auteur a fait ce chapitre pour nous montrer une forme d'associationnisme qu'on appelle shirk al-ta'a, l'associationnisme dans l'obéissance. Et elle est différente de l'associationnisme dans l'adoration. L'associationnisme dans l'adoration, vouer une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est du shirk majeur qui fait sortir de l'islam. L'adoration, c'est le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui le voue à autre que lui, il est sorti de l'islam. Comme se prosterner pour autre qu'Allah, comme invoquer autre qu'Allah, comme chercher refuge auprès d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Lakin, l'associationnisme dans l'obéissance, ce qu'on appelle shirk ta'a, elle est de deux catégories, une petite ou une grande mécréance. Ou là, on peut dire petit associationnisme, ou l'associationnisme mineur, et majeur. Donc, obéir à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la désobéissance à Allah, ça peut être une petite mécréance. Dans le cas où la personne, elle le fait tout en sachant que c'est pas autorisé. Et elle le fait en suivant ses passions, ou ses intérêts. Elle le fait pour garder son travail, ou là, elle le fait pour avoir un poste meilleur dans une entreprise, ou là, n'importe quel intérêt mondain, tout en sachant que ce n'est pas autorisé. Ça reste parmi les grands péchés qui ne font pas sortir de l'islam. Lakin, quand la personne, elle obéit à une créature dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en sachant qu'elle désobéit à Allah et qu'elle obéit à une créature en croyant que ceci est autorisé, ça fait sortir de l'islam. C'est ce qu'on appelle l'istihlal, l'aqadi. L'istihlal, c'est avec la croyance. C'est avec la croyance. Donc là, l'acte ne peut pas, on ne peut pas déduire du simple acte que la personne est tombée dans l'istihlal. Par exemple, quelqu'un qui fait riba toute sa vie, on ne peut pas déduire de cela qu'il croit que riba est licite, même s'il l'a fait toute sa vie. On ne peut pas le déduire de l'acte. C'est une croyance qui fait sortir de l'islam, comme bien même il n'a jamais fait une seule transaction de riba dans sa vie. La simple croyance fait sortir de l'islam, par rapport à l'istihlal. Et dans cette erreur est tombé des gens, yani, qui sont connus dans, chez les gens, lakin, qui ont fait la qui ont confondu entre l'istihlal al-aqadi ou l'istihlal al-amali. L'istihlal al-aqadi, c'est quand la personne croit. Donc on peut très bien trouver quelqu'un qui est musarr ala al-ma'siyah, qui commet le péché avec persistance et insistance, et ça ne le fait pas sortir de l'islam. Car il croit que c'est interdit et qu'il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à quelqu'un qui n'a même pas d'insistance sur le péché et qui ne l'a même jamais fait, rien que le fait de croire que quelqu'un a le droit de changer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est quelque chose qui fait sortir de l'islam. L'istihlal aqadi. Nasallallahu salam wa al-afiyah. Tayyib. Ensuite, il a cité ce verset. Falamma atahuma saliha. Ja'ala lahu shuraka'a fi ma atahuma. Ce que je vais vous résumer par rapport à ce verset, c'est ce que l'imam Muhammad Lamin Shangiti a dit dans son livre Adwa al-Bayan. Il a résumé les deux avis. Les deux avis concernant ce verset. Il a cité l'avis juste qu'on doit suivre obligatoirement et qu'on ne doit pas prendre en considération l'autre avis, pour plusieurs raisons. Donc, le premier avis avec lequel il a commencé, c'est l'avis faible, qui n'a pas de fondement en réalité. Il faut savoir qu'il n'y a pas un seul hadith authentique qui indique ce sens-là. Et tous les hadiths qui ont été rapportés ont été jugés faibles par les hommes de science, comme l'imam Ibn Kathir dans son tafsir. Tayyib. Donc le premier avis, c'est l'avis faible. C'est que ceux qui sont concernés par ce verset, quand Allah dit « فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا » quand il leur a accordé un enfant en bonne santé, quand Allah leur a accordé un enfant en bonne santé, un enfant sain, ils lui donnèrent des associés dans ce qu'il leur avait donné. Donc ils ont dit que ceux qui sont concernés, c'est Adam wa Hawa alayhim assalam. Adam wa Hawa alayhim assalam. Et à Hawa, il est rapporté dans ce récit que Hawa alayhim assalam, sa grossesse ne se terminait jamais. Ça se terminait toujours par des fausses couches. Jusqu'à un jour, après qu'elle soit tombée enceinte, Shaitan est venu et il lui a dit « Donne comme prénom à cet enfant qui va naître, donne-lui comme prénom Abdul Harith. Abdul Harith. Al-Harith, c'est parmi les noms de Shaitan, parmi les prénoms de Shaitan. Al-Harith. Effectivement, elle lui a donné comme prénom après sa naissance, Abdul Harith. Et nous allons voir le récit en détail. Cheikh Al-Amin, il l'a cité d'une manière résumée. Là, ça sert à rien de citer tous ces détails, ni que ça va être, il va avoir des cornes comme les cornes d'un cerf et ainsi de suite. Le moyen, c'est pour ça qu'il ne les a pas cités. Là, qui on va les voir, là, dans l'Athar d'Ibn Abbas sont mentionnés. Donc, il lui a dit, donne-lui comme prénom Abd al-Harith, il va rester en vie. Effectivement, quand elle a accouché d'un garçon, elle l'a nommé Abd al-Harith. Et toutes les voix de ce hadith sont faibles, comme a dit l'imam Ibn Kathir dans son tafsir. Tayyib. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis, c'est que ce qui est voulu par le verset, quand Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à Adam et à Hawa alayhim assalam une descendance saine, de leur descendance, il y en a qui ont mécru et qui se sont montrés ingrats par rapport aux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'ingratitude et la mécréance, c'est chez la descendance de Adam et de Hawa alayhim assalam, et non pas Adam et Hawa eux-mêmes. Et les exemples de ce style sont nombreux dans le Coran. Cheikh al-Amir rahimahullah, il a cité un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Allah dit: nous vous avons créé et vous avons donné forme. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. Et c'est évident que la formation qui est visée dans le verset, c'est la formation de Adam alayhi salam. C'est la formation de Adam, c'est lui qui a été formé, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Mais pourquoi Allah s'adresse à nous en nous disant qu'il nous a créés, na'am, et qu'il nous a formés, alors que celui qui a été formé, c'est notre père Adam, alayhi salam. Ce style est utilisé en langue arabe, car Adam, c'est notre origine. C'est notre origine. Donc la formation de notre origine est une formation pour nous, même si on n'a pas été formé directement. Là, c'est Adam, alayhi salam, qui a été formé. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit, suite à ce verset directement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. Puis nous avons dit aux anges: prosternez-vous devant Adam. Et ça indique clairement que celui qui a été formé, c'est bien Adam alayhi salam. Car suite à sa formation, vous savez que Adam a été créé avec les propres mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour la même raison, c'est que la formation de Adam, qui est notre origine à tous, nous les fils de Adam, c'est une formation pour nous également. Tayyib. Et dans le verset de ce chapitre, c'est la même chose. Ce qui est voulu, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir comblé de ses bienfaits Adam alayhi salam et sa descendance, il y a eu parmi sa descendance qui ont mécru, notamment en choisissant pour leurs enfants des noms dans lesquels il y a une servitude à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet avis, c'est l'avis, bien évidemment, Adam et Hawa ne sont pas tombés dans le shirk. Ils n'ont pas choisi ce prénom. Ça, c'est arrivé dans leur descendance. Et la descendance, c'est pas forcément la descendance directe, car nous savons qu'il n'y a pas eu une forme d'associationnisme dans les 10 premiers siècles après la descente de Adam alayhi salam sur terre. Et ceux, parmi ceux qui ont choisi cet avis, nous avons Cheikh Al-Amin Shingeta rahimahullah, Al-Hassan Al-Basri, l'imam Ibn Kathir dans son tafsir, et beaucoup de mufassirin et d'imams parmi les salafs. طيب ensuite il a rapporté la parole d'Ibn Hazm al-Zahiri al-Andalusi رحمه الله dans laquelle il dit: ittafaqu ala tahrim kull ism mu'abbad li ghayr Allah ka 'abd Amr wa 'abd al-Ka'ba wa ma ashbaha dhalika hasha 'abd al-Muttalib. Hacha Abd al-Muttalib. Donc il a rapporté cette parole de Ibn Hazm de son livre Maratib al-Ijma', les degrés de l'unanimité, dans lequel il rapporte des unanimités. Et ce livre de Ibn Hazm a été commenté par Ibn Taymiyyah rahimahullah. C'est pour ça qu'il est publié avec le commentaire de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Donc dans ce livre, Ibn Hazm dit: ils sont unanimement d'accord quant à l'interdiction de tout nom qui exprime la servitude à autre qu'Allah, comme Abd Amr, Abd al-Ka'ba, etc., sauf Abd al-Muttalib. Excepté Abd al-Muttalib. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par excepté Abd al-Muttalib? Est-ce qu'il veut dire que les hommes de science sont unanimement d'accord sur l'interdiction de tout nom qui exprime une servitude à autre qu'Allah, Sauf Abdul Muttalib, il voit que c'est autorisé, même s'il exprime cette servitude. Ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre de cette parole. La parole, elle n'est pas explicite. Comment on peut comprendre de cette parole que les hommes de science sont unanimement d'accord quant à l'interdiction de tout nom qui exprime la servitude à autre qu'Allah, sauf Abdul Muttalib, dans lequel il y a divergence. Donc on peut comprendre qu'il y a unanimité sur l'interdiction, sauf Abdul Muttalib, il y a unanimité que c'est autorisé. Et ça, c'est un sens, même si on peut le comprendre de sa phrase, il est loin de la réalité. Et on peut comprendre également, le deuxième sens qui est plus proche de la réalité, c'est que les savants sont interdits sur la servitude de tout nom dans lequel il y a une servitude à autre qu'Allah, sauf par rapport à Abdul Muttalib, ils ont divergé. Et par rapport à cette divergence, l'avis est le plus juste que Abdul Muttalib est interdit également. Et les preuves sur lesquelles ils se sont appuyés pour autoriser ce prénom sont très faibles. Et donc c'est une interprétation. Et c'est pas un texte explicite qui indique que ce prénom est autorisé. Et pourquoi ce prénom il va être autorisé alors que tous les prénoms dans lesquels il y a une servitude à autre qu'Allah sont autorisés? Ceux qui ont vu que c'est autorisé, ils ont dit car à la base ce prénom c'est pas une servitude à autre qu'Allah. Vous savez l'histoire de Abd al-Muttalib. Al-Muttalib c'est l'oncle de Abd al-Muttalib. C'est son oncle. Et il est parti le récupérer, yani le fils de Hashim. C'est le fils de son frère. Et Abd al-Muttalib, c'est le père du prophète alayhi salam. Donc, Abd al-Muttalib, qui s'appelle Shayba. Shaybat al-Hamd. Shaybat al-Hamd a grandi avec ses oncles. Avec ses oncles maternels, Khwalo. Et quand il est arrivé à un certain âge, son oncle a décidé, après la mort de son père, son père Hashim, le grand-père du prophète alayhi sallam. Son grand-père, Al-Muttalib, a décidé d'aller le récupérer chez ses oncles maternels afin qu'il soit dans sa tribu. Car l'homme est attribué à la tribu de son père. Et il l'a ramené avec lui, il était avec lui sur la monture, derrière lui. Et sur le chemin, il a bronzé. Sa peau est devenue un peu mate. Et quand les Mécois l'ont aperçu de loin, ils ont dit, c'est Abd al-Muttalib. Ils ont pensé que c'était un esclave. Il a ramené un esclave avec lui. Ils ont dit Abd al-Muttalib. Donc ils ont dit, c'est autorisé parce qu'à la base, c'est pas une servitude à autre qu'Allah. C'est juste un esclave de Abd al-Muttalib. Et c'est pas une servitude. Là, ce qui est juste, Wallahu a'lam, c'est que, et ça, c'est l'avis de tous les savants que je connais. Parmi nos savants contemporains, je ne connais pas quelqu'un qui n'a pas cet avis. Donc, ce qui est juste, c'est que ce prénom également est interdit. Et les fois où le prophète alayhi sallam l'a utilisé, comme dans quelle bataille il l'a dit? Il a dit Ana an-nabiyyu la kadib, ana ibn Abd al-Muttalib. Allah a'lam, c'est la bataille de Hunayn. Les fois où le prophète alayhi sallam l'a utilisé, c'était pour informer. C'est pas lui qui a donné ce prénom à cet homme. Cet homme a déjà ce prénom. Il est connu par ce prénom. Et si on l'appelle pas ainsi, il sera pas connu. C'est pour ça, si on l'appelle de cette manière pour informer les autres qu'il s'agit de lui, ça c'est autorisé. Car il y a une différence entre informer d'une chose comme quelqu'un qui t'informe d'une parole de mécréance. C'est pas une mécréance en soi-même. Contrairement à celui qui le dit de lui-même. Lakin, si je te la rapporte pour une raison valable, ça c'est pas une parole de mécréance. Ça ne fait pas sortir de l'islam. Tayyib. Donc ce qui est juste, Wallahu a'lam, c'est que c'est pas autorisé aujourd'hui d'appeler quelqu'un Abd al-Muttalib. C'est interdit. Et Sophia, ils aiment bien ce prénom. Bien évidemment, Sophia, pour eux, yani, tout ce qui est en lien avec le prophète, yani, au lieu de suivre sa sunna et ses enseignements et sa tradition, ils vont s'attacher à des détails de, comme celui-là. Pour Sovia, bien évidemment, c'est pas possible. Yani, je dis Sovia d'une manière générale. Yani, surtout ceux qui ont, entre parenthèses, la science parmi eux, leurs chouyours, leurs grands chouyours. Amma les suiveurs, en général, c'est des suiveurs aveugles. Illa marra. Nassalallah l'hidayah al-jami'. Nous demandons à Allah la guider pour nous et pour tous. Donc, ils s'attachent à ces détails. Pour eux, les parents du prophète, ils sont au paradis. C'est pas possible que quelque chose qui est en lien avec Nabi Aslam va en enfer. Son grand-père, il est au paradis. Son oncle, il est au paradis. Pour eux, c'est inimaginable. Déjà, toi, si tu t'accroches au prophète, ils disent, tu vas aller au paradis. Même si tu fais shirk. Car il va te sauver. Wal'iyadu billah. Alors que Nabi Aslam, pendant son vivant, il a informé sa fille, la personne qu'il aime le plus, il l'a informé qu'il ne peut rien pour elle auprès d'Allah, si elle ne vient pas avec Tawhid. Lakin, ils vont s'attacher à des détails comme ça. Et tu vas le trouver qu'il est très très loin de la sunna du prophète et de sa pratique. Il y en a de cette manière, il gagne les sentiments des gens, il gagne les gens par les sentiments. Taïb. Ça, c'est par rapport à ce prénom. Ensuite, il a cité, et Ali aussi, ils peuvent dire la même chose. Les compagnons, ils appelaient la tribu de Abd al-Shams, la tribu Abd al-Manaf, la tribu de Abd al-Dar, et tout ça, c'est des noms qui sont dans lesquels il y a une servitude à autre qu'Allah. La réponse, c'est la même. Ça, c'est pour informer, tout simplement. Comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim. C'est pour informer. Et c'est pas eux qui ont donné ces prénoms à la base. Et la même chose aujourd'hui. Si on a quelqu'un qui n'est connu que par un prénom dans lequel il y a un sens qui n'est pas bon, il n'y a pas de mal à l'appeler avec. S'il n'est connu que de cette manière. Tout en l'invitant à changer ce mauvais prénom. Qui comporte un sens interdit en islam. Ensuite, il a cité la parole d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, dans l'explication de ce verset. Et ce athar est rapporté avec une chaîne de transmission faible. Il n'est pas rapporté authentiquement de Abdullah ibn Abbas. Qu'est-ce qu'ils disent dans votre livre? Par rapport à la chaîne de transmission. Peut-être qu'il ne donne pas le jugement de l'Afar. Rawah ibn Abi Hatim. Ce Afar a été rapporté par ibn Abi Hatim dans son tafsir. Et l'imam ibn Kathir dans son tafsir, et c'est pour ça mes frères, celui parmi vous qui est arabophone, qui lit en arabe, donnez énormément d'importance au livre de l'imam ibn Kathir. Son tafsir, c'est la pulpe de ce que Salaf ont dit par rapport au sens des versets. Et en plus, ce savant, c'est un très grand savant dans le hadith. C'est un imam dans le hadith, c'est un hafid. Ce savant, c'est un grand savant dans l'aqida. Yani, au niveau de l'aqida, c'est l'excellence, rahimahullah. Et en plus, c'est un grand mufassir. Et donc, il utilise tous ses outils pour arriver à la vie juste. C'est pour ça, et ça, c'est pas pour minimiser l'importance de l'imam Ibn Jarir, qui est cheikh al-mufassirin d'une manière absolue. Il n'y a personne qui arrive à Ibn Jarir. Lakin, Ibn Kathir, rahimahullah, il a une particularité. Ibn Jarir, pourquoi il reste au sommet? Malgré que tu peux trouver des points, yani que si tu demandes à un salafi aujourd'hui, il va te dire non, c'est pas comme ça. Lakin, tu vas les trouver comme avis de l'imam Ibn Jarir, comme choix. L'imam Ibn Jarir, rahimahullah, c'est pas un tafsir. C'est une école dans le tafsir. Il te forme pour devenir un grand mufassir. Amma Ibn Kathir, non. Il fait pas ce travail. Ibn Kathir, il veut te donner l'essentiel de ce que tu dois savoir par rapport à la parole, à ce verset. Ibn Sa'di, il fait la même chose que Ibn Kathir. lakin d'une manière encore plus résumée. C'est-à-dire, il va t'expliquer un ensemble de versets. Imam Ibn Kathir, en général, il explique verset par verset. Ibn Sa'di, rahimahullah, il donne le sens d'un ensemble de versets en général. C'est pour ça que les trois tafasirs, c'est parmi les meilleurs de tafasirs. Ibn Jarir, Ibn Kathir et Ibn Sa'di. Rahimahullah, jami'an. Donc, Ibn Kathir, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ce verset? Il dit par rapport à ce athar que l'imam Muhammad ibn Abdelwahab a cité ici, il dit وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا والله أعلم وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته ولهذا قال الله تعالى فتعالى الله عما يشركون. Il dit, rahimahullah, ce qui est apparent, que tous ces récits sont pris des gens du livre, c'est-à-dire des récits israélites. Il a dit, par contre, nous, on est sur la voie de l'Hassan al-Basri, et sur son avis. Et, yani, comme quoi, ceux qui sont visés par ce contexte, ce ne sont pas Adam et Hawa, mais les associateurs parmi leurs descendants. C'est pour ça, Allah Azza wa Jalla, à la fin du verset, qu'est-ce qu'il dit? Fata'ala Allahu amma yushrikun. Gloire et pureté à Allah de ce qu'il lui associe. Et Adam et Hawa, ils n'ont pas associé. À l'unanimité des hommes de science. C'est pour ça qu'ils disent c'est une forme d'associationnisme dans l'obéissance. Bien évidemment qu'il ne fait pas sortir de l'islam. Et en plus, ce récit qui est rapporté de Ibn Abbas, on va le lire. On va le lire dans Had Tafsir, Had la traduction. Il dit qu'il est rapporté de Ibn Abbas au sujet de ce verset. Lorsque Adam, alayhi salam, approcha son épouse, elle tomba enceinte. Iblis vint alors la voir et lui dit « Je suis celui qui vous a fait sortir du paradis. » Et on va voir les contradictions dans ce récit. Iblis, il vient voir Hawa et lui dit « Je suis celui qui vous a fait sortir du paradis. Vous m'obéirez, sinon je lui donnerai des cornes de cerf. » Et il t'arrachera le ventre en sortant, et je ferai. Il disait cela pour les effrayer, et leur ordonna de l'appeler Abdul Harith, le serviteur du cultivateur. Et le Harith, comme on a vu, c'est un nom de Iblis. Ils refusèrent de lui obéir, et l'enfant mourut à la naissance, la première fois. Elle est tombée enceinte une deuxième fois. Il est venu dire la même chose. Ils ont refusé et l'enfant est mort à la naissance. Il est venu une troisième fois après qu'elle est tombée enceinte. Il leur a dit la même chose et c'est alors qu'ils furent submergés par l'amour qu'ils portaient pour l'enfant. Ils l'appelèrent Abdul Harith et c'est le sujet du verset « وَجَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا » Et lorsqu'il leur donna un enfant saint, ils lui donnèrent des associés dans ce qu'il leur avait donné. Donc ça, c'est le récit. Ce récit, mes frères, il ne peut pas être juste. Car il comporte, en plus que ça, premier point, c'est sa chaîne de transmission. Elle est faible. Donc ça règle l'affaire. Dès le départ. Là, qu'il en plus, il comporte énormément de contradictions. Et de choses erronées. Et de choses inacceptables vis-à-vis d'un bon croyant. Alors que dire d'un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, le père de l'humanité, Adam alayhi salam, et de son épouse. Donc, le premier point, c'est déjà la faiblesse de la chaîne de transmission. C'est pour ça Ibn Hazm, il a été clair au sujet de ce récit, il a dit, ça c'est يعني c'est un mythe mensongère. C'est un mythe mensongère. اش كيسميو هذوك لي ميت دو لا فونتين؟ لي فابل ايوا. اه نعم سيت اون فابل. انا جو تروي با لي سيت اون فابل. Il dit c'est une fable mensongère. Adawa la parole d'Ibn Hazm par rapport à ces récits. Également, ceci ne peut pas être juste, car Adam et Hawa, si jamais ils seraient tombés dans cette désobéissance et cette forme d'associationnisme, forcément, ils auraient dû se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, il faut admettre qu'ils sont morts sur la mécréance et sur l'associationnisme. Et ça, c'est quelque chose inimaginable, impensable. Et aussi, on connaît de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il ne rappelle pas à quelqu'un ses péchés. Si quelqu'un a commis un péché, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, il ne lui rappelle pas son péché. Sauf quand il y a une leçon à tirer. Et dans ce cas-là, forcément, il va citer son repentir. Forcément. Obligé. Et ça, c'est aussi notre devoir vis-à-vis de nos frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le travail de Shaitan de rappeler aux gens leurs péchés. Mais le croyant, il rappelle jamais un croyant un péché dans lequel il est déjà tombé du moment qu'il s'est repenti. Et donc Allah, quand il nous relate certaines désobéissances, c'est pour la leçon à tirer. Et c'est pour ça, il cite toujours avec qu'ils se sont repentis. Et que ce repentir a tout effacé, il les a élevés dans des degrés. Comme Allah nous a mentionné, quand Adam et Hawa ont mangé de l'arbre interdit, Shajar al-Mal'ouna, l'arbre maudit, l'arbre interdit. Ça me fait penser à quelque chose. Comment les chrétiens appellent les chrétiens attribuent ça seulement à Hawa, Ève. Ils attribuent ça à Hawa. Alors que pour nous, les deux ont commis le péché. Et les deux se sont repentis. Les chrétiens, comment ils appellent le péché? Est-ce que vous savez?
Je sais pas.
Pour eux, c'est celui qui porte la responsabilité de la sortie du paradis, c'est uniquement Ève. Et ils disent le péché original ou la main originale. Al-Mohim. Hein?
Originel.
Aïwa, nam. Yani, à l'origine de la sortie du paradis. Lakin, quand on lit les versets du Coran, on voit que les deux sont tombés dans ce péché. Et les deux se sont repentis. Je vous demande parce que j'en aurais besoin pour tout à l'heure. Had les notices ou la smith man. Tayyib, jazakumullah khair. Donc ça c'est le deuxième point de vue. Également, à l'unanimité des savants, les prophètes et les messagers sont infaillibles par rapport à l'associationnisme. La divergence c'est dans les petits péchés. Est-ce qu'un prophète peut commettre un petit péché? Il y a une divergence à ce sujet-là. Et ce qui est juste, c'est que, ça peut arriver. Lakin Allah lui permet le repentir. Allah lui permet le repentir. Lakin, il tombe jamais dans des péchés dans lesquels il y a une bassesse. Ça, jamais. Même si c'est un petit péché. Il ne tombe pas dans des péchés dans lesquels il y a une bassesse, même si c'est des petits péchés. Amma les grands péchés, ils les font pas. Et encore moins l'associationnisme majeur. Ni mineur. Les prophètes sont tous infaillibles par rapport à shirk. Et nous savons tous, et c'est là les arguments les plus forts, nous savons tous, avec l'argument de la faiblesse de la chaîne de transmission. Celui-là, lui tout seul, il suffit. En plus, nous savons tous que
Adam alayhi salam, quand les créatures vont se diriger vers lui pour lui demander d'intercéder auprès d'Allah, il va citer son péché. Il va citer quoi ? Qu'il a désobéi, qu'il a mangé de l'arbre interdit. S'il avait commis un acte d'associationnisme, il l'aurait cité avant de citer le fait d'avoir mangé d'un arbre interdit. Ça également. Et aussi, Shaitan, dans ce récit, quand il est venu voir Hawa, alayhi salam, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit, je suis celui qui vous a fait sortir du paradis. Et donc, je suis votre ennemi juré. Je suis votre ennemi déclaré. Et elle lui obéit quand même ? C'est inimaginable, ça non plus. Et c'est pas comme ça qu'agit celui, Shaitan, c'est pas comme ça qu'ils agissent. Ils se déclarent pas comme ça. Ils viennent avec des bonnes intentions, avec des portes de bien, pour induire la personne en erreur et en égarement. Et aussi, il lui a dit, je vais lui donner des cornes de cerf. Et elle l'a cru. Elle l'a cru dans quelque chose où il n'y a que Allah dont il est capable. Shaitan n'est pas capable de donner à un fœtus dans le ventre des cornes de gazelle, des cornes de cerf ou là de gazelle ou là. Ça c'est impossible que Hawa alayhi salam elle croit que Shaitan était capable de cela. Et aussi regardez à la fin des versets, de ces versets, qu'est-ce que Allah il dit? Il dit Fata'ala Allah amma yushrikun. Gloire et pureté à Allah de ce qui lui associe. Il a utilisé le pluriel. Il n'a pas dit فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكَانَ au duel. عَمَّا يُشْرِكُونَ ça veut dire les associateurs de, parmi la descendance de Adam et de Hawa qui sont un pluriel et non pas au duel. Donc tous ces points de vue avec d'autres points de vue, tous indiquent la même chose que ce inimaginable d'attribuer cela à Adam et Hawa alayhim as-salam. Et pour terminer, il a cité, selon Qatada, il a dit, قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. Donc il a dit des associateurs dans son obéissance. Et il n'a pas dit des associateurs dans son adoration. Et ça, c'est pour distinguer les deux, comme on a vu dès le départ, il y a une différence entre l'associationnisme dans l'adoration et l'associationnisme dans l'obéissance. Celui qui obéit à une personne dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ça reste un péché. Sauf s'il croit que c'est autorisé, que cette personne change la loi d'Allah. Ça devient un grand péché, ça devient une grande mécréance. Une grande mécréance. C'est ce qu'on appelle istihlal. Et il a cité, avec une chaîne de transmission authentique également, selon Ibn Abbas, selon Mujahid, Mujahid, le grand imam de Tafsir, il a dit لَإِنَا تَيْتَنَا صَالِحًا si tu nous accordes un enfant saint, il a dit ils ont eu peur que ce ne soit pas un humain. أَشْفَقَا أَلَّا يَكُونَ إِنْسَانًا وَذَكَرَ مَعْنَاهُ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدٍ وَغَيْرِهِمَا. Donc, ça indique tout simplement qu'ils ont souhaité avoir un enfant saint et non pas un enfant déformé, ou là qui n'a pas une forme humaine, qui a autre chose qu'une forme humaine. Et ça n'indique en aucun cas que ceci concerne Adam et Hawa alayhi salam, et encore moins qu'ils ont demandé ça à Iblis. Donc, ce qu'on déduit en résumé de ce chapitre, c'est l'obligation d'attribuer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala à Allah subhanahu wa ta'ala et de se montrer reconnaissant, notamment en choisissant des prénoms pour nos enfants dans lesquels il y a une servitude à Allah subhanahu wa ta'ala et l'interdiction de tous les prénoms dans lesquels il y a une servitude à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous savez, les meilleurs des prénoms d'une manière absolue, c'est Abdullah et Abdurrahman. Et ensuite, les prénoms dans lesquels il y a une servitude à Allah subhanahu wa ta'ala, avec un nom rapporté dans les textes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a des prénoms qui sont, qui comportent des noms qui ne sont pas rapportés authentiquement, comme Abd al-Maqsoud. Al-Maqsoud, c'est pas un nom d'Allah. Raziq, Raziq, Razzaq, Razzaq, non, c'est un nom d'Allah. Raziq, Raziq, j'ai oublié. Raziq, je pense pas que c'est un nom d'Allah, Allah. En tout cas, il y a des par exemple, le Mannan. Ils disent Abd al-Mannan. Le Mannan, c'est pas un nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En tout cas, il faut veiller à choisir des noms d'Allah qui sont rapportés dans le Coran ou dans la Sunna. C'est les meilleurs. Après, il y a aussi tous les prénoms des prophètes et des hommes de science. Yani, à commencer par les premières générations, la génération de Sahaba, de Tabi'in, et ainsi de suite. Ça, c'est les prénoms qu'on doit choisir pour nos enfants et mettre l'intention qu'il soit sur la guidée de ces hommes qui ont porté ces prénoms et qui soient sur leur trace. Et ça, c'est un bon début. Et le début, bien évidemment, c'est pas le prénom. Le début, c'est le choix de la mère. Et min ba'd, yani la terre dans laquelle tu vas faire pousser les graines, tu vas planter les graines. Et aussi, de lui choisir un beau prénom. Bi'idnillahi ta'ala. Voilà mes frères pour aujourd'hui. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.